Effectivement, sur le premier point que tu dis, mais c'est une vieille habitude, précédemment, du temps où je crois que c'était Raffarin, le Premier ministre, il avait passé commande à l'Inspection générale des finances et au Conseil général des ponts et chaussées de faire l'audit de tous les projets qui étaient dans les tiroirs. Il disait qu'il n'était pas héritier des promesses passées et il voulait remettre les choses à plat. Ces gens ont travaillé, ont fait des propositions, ont hiérarchisé à leur façon à l'époque avec les... dans la raide dans les bottes de la légitimité du calcul socio-économique, M. Jules Dupuis, ingénieur du 19e siècle en étant le fondateur, et les ministres ont remercié très vivement de cet excellent travail pour annoncer tout de suite qu'ils n'en suivraient pas les recommandations et que le canal Seine-Nord et Lyon-Turin, qui étaient les deux projets dénoncés comme des dépenses publiques totalement inutiles et inefficaces par rapport à d'autres, ont été confirmés comme des options du gouvernement de l'époque. Donc ce dialogue entre technocrates ou spécialistes, experts et politiques n'est pas nouveau et compliqué. Cela étant, on peut toujours, moi j'ai participé à des débats publics sur le prolongement du système TGV au-delà de Rennes, les débats sont très vifs, les gens se disputent, la démocratie à mon sens y fonctionne fort mal, quelle que soit la définition qu'on en donne, et en même temps on se bat pour des financements éventuels dans 20 ou 30 ans, je veux dire que je ne vois pas qu'on prolonge le TGV au-delà de Rennes dans les temps qui viennent, il va arriver bientôt, on va le mettre en service. Mais donc on peut toujours donner une déclaration d'utilité publique pour une liaison Poitiers-Limoges. Ça coûte en réunion, ça coûte en fonctionnaire, ça coûte en études. C'est vrai, c'est peut-être pas très intelligent, très nécessaire, mais on n'est pas prêt de passer à l'acte et à construire la ligne à grande vitesse au-delà de Bordeaux pour toucher Hendaye dans les mois qui viennent, enfin que je sache. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de faiblesse aussi qui consiste à donner des sortes de satisfaction symbolique à des élus en disant « on ne fait pas mais on étudie ». Donc on laisse vivre l'illusion ou la promesse un peu informelle, un peu ambiguë dans son statut, mais on continue à réfléchir à peut-être un jour on fera. Je crois qu'effectivement on manque un peu de courage à cet égard. Ta deuxième question, c'était sur les réseaux. Oui, on a des réseaux parallèles, on a des technologies qui naissent et des technologies qui meurent, il y a des technologies qui se substituent à d'autres. On a déjà vu combien le chemin de fer, c'était le mode dominant jusqu'à la Première Guerre mondiale. Tous les autres modes de transport jouaient un rôle totalement subalterne de desserte du ferroviaire. Toutes les liaisons de marchandises et voyageurs se faisaient c'était la technique reine qui couvrait l'ensemble du territoire. Et puis d'autres techniques sont venues, et par leur commodité, leur facilité, etc., leur disponibilité, ont remplacé le chemin de fer. Donc. Alors, les schémas de service collectif, qui étaient une invention du gouvernement Jospin, effectivement, avaient pour la première fois dit, on avait auparavant un schéma directeur des autoroutes, un schéma directeur des voies navigables, un schéma directeur des aéroports, un schéma directeur du chemin de fer, qu'il fallait avoir une vision intermodale et intégrée de l'ensemble, premièrement, deuxièmement, partir des besoins et des services, et non pas partir des infrastructures, et ne construire que ce qui était nécessaire, et non pas avoir une logique d'offre, mais une logique partir de la demande et des besoins des usagers. Ces principes restent pertinents, mais c'est vrai qu'on est toujours à les reconsidérer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la SNCF, pour parler de l'opérateur historique en France, mais c'est vrai ailleurs, est confrontée à des choses que même les grands prospectivistes comme moi n'avaient pas prévues il y a 10 ans. Donc on n'est pas très malin. Blablacar, franchement... ou l'ouverture du marché des autocars, ou le succès des low-cost aériens, on n'en avait pas mesuré l'ampleur et la concurrence effective, intra- et extra-modale, que ça peut représenter pour les opérateurs de transport classique.
Oui.
Peut-être juste une question qui a gagné, si c'est une harmonie. Une question sur le rapport au temps et l'infrastructure, vous l'avez un petit peu évoqué. Pour revenir sur la question de, qui me semble importante, c'est quel temps pour une infrastructure, quelle temporalité. On a évoqué un petit peu rapidement la question liée à la civilité, mais un pont, ce n'est pas forcément une construction qui a une durée à vitam aeternam. On en a, nous, peut-être une vision européenne ou française assez comme ça, travailler sur l'entretien. Il faut savoir qu'aux États-Unis, voilà, on est plutôt sur des périodes de 20-30 ans, et puis si le pont ne fonctionne pas, ou parce qu'il est plus dimensionné ou qu'il faut le refaire, on en construit un à côté, quoi. On n'a pas tout à fait la même vision, évidemment, chez nous, y compris en Normandie, sur le coup. Parce que normal. Donc, quelle est pour vous la question, enfin, le rapport, bien sûr, là, on parlait de nouvelles infrastructures, mais l'entretien de ces infrastructures, c'est plein d'enjeux, évidemment, en termes de coûts, d'acceptabilité.
C'est une question très importante, et on vient de vivre, et Durand aussi y a contribué, enfin, non pas, c'est pas Philippe Durand qui a fait toute la politique des transports en France, qui serez-vous, mais c'est un ami, mais je ne voudrais pas lui donner plus de poids sur les épaules qu'il en a porté. Mais on a vécu un tournant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a déjà une dizaine d'années, il a fallu qu'on aille chercher des experts suisses pour dire tout haut ce que tout le monde savait, à savoir qu'on avait négligé l'entretien du patrimoine ferroviaire, qu'il était dans un état désastreux. Et on espère, on a relancé du coup un effort considérable en triplant le budget d'entretien du réseau ferroviaire. Et on espère qu'à la fin des années 2010, on aura stoppé le vieillissement de l'âge moyen du réseau. Donc on a un réseau ferroviaire qui est en gros deux fois plus vieux que le réseau allemand en moyenne d'âge des installations. Bretigny est peut-être un petit peu à mettre dans ce contexte. Donc on a pris conscience effectivement de la négligence qu'on a eue de l'entretien. Et d'après ce que disent certains, je ne suis pas expert routier, mais on est en train, ou on risque de faire pour la route, aujourd'hui, la même erreur qu'on a faite pour le chemin de fer, et on laisse le réseau se dégrader. Donc l'infrastructure, c'est à la fois du très long terme, mais du coup, parfois, on prend, comme c'est du long terme, on prend des décisions de court terme qui sont y compris très coûteuses, parce qu'une route, si on ne remplace pas la surface, la couche superficielle qui s'abîme et qui s'use, c'est la couche en dessous qui commence à souffrir et qu'il faudra complètement renouveler plus tard et à beaucoup plus grands frais. Donc il y a effectivement une intégration, là, une coordination, entretien, investissement. Mais politiquement, c'est évidemment plus glorieux de créer une infrastructure nouvelle que de dépenser de l'argent à entretenir ce qui existe déjà, c'est sûr. Mais là, je crois quand même la prise de conscience est faite. Dans le monde ferroviaire, c'est clair. Dans le monde routier, mais ça, c'est aux régions, aux départements aujourd'hui, et peut-être aux régions demain, qu'il faudra accomplir ce virage culturel et politique.
Il y avait une autre dimension, si je peux me permettre, dans la question, qui est... Est-ce qu'on n'a pas une vision aussi un peu patrimoniale?
On a une vision patrimoniale, mais c'est vrai, bon, mais... on commence à avoir quelques villages fantômes en France, mais la maison de famille, il y a toujours un cousin qui la reprend d'une certaine manière. En Amérique, bon, ça n'existe pas. Cela étant, en moyenne, en Europe, les pays d'Europe occidentale, je parle de la moitié ouest, les 15 fondateurs de l'Union avant l'élargissement aux pays de l'Europe centrale, dépensent grosso modo 0,9% de leur PIB annuel en investissement en infrastructure de transport. Les Américains en sont plutôt à 0,6%. Donc on sait qu'aux États-Unis, le réseau d'infrastructure est très mauvais, est en très mauvais état.
Juste sur cette question-là, la taxe carbone, c'était un peu une réponse à la question de l'entretien du réseau, non?
Oui, la taxe carbone, c'était une façon à la fois, espérait-on, d'internaliser les coûts externes, le jargon bien connu, fermer les guillemets, et donc, parce qu'elle était modulée en termes de pollution des véhicules, par exemple, les véhicules polluants payant plus cher que les véhicules propres, on pouvait la moduler aussi dans le temps et dans l'espace, on peut imaginer avec l'électronique aujourd'hui, des modulations beaucoup plus fines de l'usage des infrastructures, faire payer là où c'est congestionné et faire la gratuité là où c'est fluide, par exemple, et heure par heure, à la limite, comme ça se fait parfois. Mais la taxe carbone, c'était une manière de trouver de l'argent. Je crois que ça a été une erreur politique fâcheuse que de l'abandonner. Et en plus, moi, comme citoyen, une loi votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale et qui n'est pas mise en œuvre, je trouve ça fâcheux. Puisque j'anime un observatoire des transports en Europe, les Suisses étaient à l'origine d'un truc comme ça. Quand ils ont fait ça il y a 15 ans, on regardait ça en disant « mais ça c'est vraiment une bizarrerie helvétique, avec leur mœurs étranges, leur votation. Les Suisses font un référendum d'initiative populaire sur les traversées alpines qui est voté à l'unanimité, à la majorité, bien sûr, contre l'avis du gouvernement fédéral. Mais un référendum suisse, quand il a été voté, il a valeur constitutionnelle, il s'impose à tous les gouvernements suivants, sauf nouveau référendum qui en inverserait les conclusions. Et les Suisses s'auto-infligent une augmentation des taxes sur les huiles minérales, comme ils disent, c'est-à-dire les carburants, pour financer les tunnels, etc. Et mettre en place cette RPLP, redevance proportionnelle à la distance pour les poids lourds. Donc c'était bizarre, c'était suisse, c'était vraiment Astérix chez les Helvètes, quoi. Et puis, quand ça devient le LKW-Maut et que c'est l'Allemagne qui fait la même chose, ça devient quelque chose de plus sérieux. Alors, on se moque des Allemands pendant 2 ans, leur logiciel ne fonctionne pas, ils dépensent des milliards et ça ne sert à rien. Maintenant, ils touchent 4 milliards par an de recettes, et ils financent avec ça les infrastructures, et tous les véhicules y sont soumis, et y compris les véhicules étrangers, ce qui n'est pas le cas des recettes de la TIPP, par exemple la TICPE maintenant, de la taxe sur les carburants, puisque les poids lourds qui traversent la France font leur plein au Luxembourg ou en Espagne et n'achètent pas un litre de gazole en France et ne versent pas d'impôts à l'État français. Donc la taxe carbone, elle avait beaucoup de vertus à mon avis. Il y a eu un coup politique, à mon avis, fâcheux. Il faudra quelques années pour en effacer le souvenir. Mais je pense qu'un jour ou l'autre, on y reviendra, mais peut-être avec des moyens techniques plus légers, d'ailleurs, sans portique, par exemple. Mais bon, on bouillon.
Je crois qu'il faut qu'on suspende...
Hein? Non, mais toutes les questions, je n'ai fait qu'aborder superficiellement. Je pense qu'à travers d'autres exemples de réseaux, avec une autre technologie, un autre rapport au territoire, on les retrouvera, et puis dans le débat plus transversal et politique de demain, on y reviendra aussi.
Merci beaucoup, Michel.